Histoire de la recherche. La sixième saison du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique, proposée par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsay Santé. Au sein du groupe Ramsay, de nombreux médecins portent des projets de recherche clinique innovants dans différentes spécialités. Et pour en arriver là, il a fallu des décennies de recherches scientifiques. Dans ce podcast, il nous raconte l'histoire de la recherche dans leur domaine. Pour ce troisième épisode, nous rencontrons Dr Lucie Delaroche, biologiste, et Dr Pierre Auger, gynécologue médical à l'hôpital Ramsay Parly 2 en région parisienne. Il nous raconte l'histoire de la recherche sur l'assistance médicale à la procréation, une histoire qui a toujours reposé sur la coopération entre gynécologues et biologistes et qui commence par une naissance.
Pour moi, la première grande date, c'est 1978, c'est le 25 juillet, c'est le jour de mon anniversaire. C'est la première fois qu'il y a un enfant qui est né après fécondation in vitro, la petite Louise.
Une petite fille est née hier soir en Angleterre, une petite fille déjà célèbre qui fait l'orgueil du corps médical et de ses parents. Cette petite...
Louise Brown, qui a maintenant 10 semaines, est le premier bébé conçu par le procédé appelé fécondation in vitro.
D'ailleurs, après, il y a eu un prix Nobel.
The Nobel Prize in Medicine was awarded today. It was given to a pioneer in the field of assisted human reproduction, scientist Robert Edwards.
Donc, ils sont deux. C'était un biologiste et un gynécologue. Pour le coup, c'est Bob Edwards, dont le nom est le plus connu, qui est un biologiste. Alors qu'en France, Amandine, la première petite fille née après PMA, c'est à Clamart. C'était avec Jacques Testard, le biologiste. Et le nom qui est le plus connu, c'est le professeur René Friedman.
Bonjour René Friedman.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialiste de la reproduction. Vous publiez...
Bonjour docteur.
Bonjour.
Professeur René Friedman, on vous connaît bien. Vous avez accompagné des milliers, pour ne pas dire des millions de couples, en France.
Bonjour
le
professeur.
Le voilà.
Bonjour. Quel honneur. Merci d'être avec nous, en tout cas. De...
C'est vrai qu'en France, on se souvient moins du nom de Jacques Testard, le biologiste qui a participé à la naissance d'Amandine en 82. Mais effectivement, le binôme clinico-biologique est très important dans la prise en charge. Et d'ailleurs, en termes de responsabilité, on est à responsabilité partagée, s'il arrivait le moindre souci.
C'est ce binôme qui a permis l'avènement de grandes avancées techniques.
On partait au départ d'un groupe de gynécologues. En France, c'était très gynécologie, la PMA, avec des stimulations et on avait des résultats plus ou moins bons et on avançait comme ça. Et c'est vrai qu'en gynécologie, l'apport des biologistes nous aide parce qu'on est une profession où on est parfois surbooké et on pense toujours bien faire. Et l'apport des biologistes fait qu'il y a plus de rigueur dans leur gène, on va dire. Et donc, ils sont habitués depuis très tôt, eux, à être rigoureux, qu'au fraqué, comme on dit. C'est-à-dire, vous êtes contrôlé. Il faut que tout soit bien rigoureux, que vous puissiez prouver ce que vous avez fait, comment vous avez fait, qu'il y ait une traçabilité. Et c'est ça qui a permis, je pense, d'améliorer beaucoup et qui nous impose à nous, qui avons donc changé un peu notre façon de faire. D'où l'importance, encore une fois, de travailler en équipe.
En fait, il y a eu un article qui est paru il y a quelques années qui pose la question dans son titre « Mais qu'est-ce qui compte en FIV ?» Et en fait, la réponse, ils la mettent dans le titre, c'est tout, tous les détails, tous les micro-détails, tout va compter en fait. Et il faut être performant partout, penser à tout et c'est comme ça qu'on gagne effectivement des petits points de grossesse et qu'on est dans les 10 meilleurs centres de FIV français en termes de taux de succès à Parly 2.
Pour comprendre les raisons de ce succès, il faut remonter le temps. Retour au début des années 80. Les premiers centres de fertilité apparaissent en France au sein des services de gynécologie et les médecins voient alors arriver une avancée majeure.
On a un peu modifié la façon de stimuler nos patientes et ça a changé la vie des gynécologues. Parce qu'auparavant, quand on faisait les ponctions, on ne pouvait pas savoir à quel moment la patiente allait ovuler. Donc vous vous retrouviez à faire une ponction ovulaire 36 heures après l'ovulation. Et vous imaginez que sans blocage de l'ovulation, c'était compliqué de s'organiser. Donc il y a eu quelqu'un qui a eu l'intelligence d'introduire ce qu'on appelle des antagonistes et des agonistes de la GnRH. Ce sont des molécules qui permettent de décaler l'ovulation. Ça nous permet de nous organiser. Donc ça, les premières données, c'est en 82 pour les agonistes de la GnRH. Et ça a permis d'avancer sur l'organisation des centres. Mais il y avait encore beaucoup de lacunes à l'époque parce que les premières FIV, c'était surtout pour des patients qui avaient des pathologies tubaires. Mais on ne traitait pas aussi bien les pathologies masculines. et sachant que la pathologie masculine, c'est une part importante dans la fertilité. Et c'est pour ça qu'il y a eu, grâce à des biologistes, la LICSI.
Effectivement, on a vu l'arrivée de LICSI en 92. Le biologiste avait ripé, c'est-à-dire qu'il avait fait déraper sa pipette d'injection. Un peu comme ça que tout a commencé. Enfin, en tout cas, c'est la belle histoire qu'on raconte. Du coup, il a pu introduire un spermatozoïde dans un ovocyte qui a pu être fécondé. Et donc, c'est comme ça maintenant qu'on arrive à prendre en charge les hommes qui ont des paramètres spermatiques très altérés, où les spermatozoïdes ne vont pas pouvoir eux-mêmes rentrer dans l'ovocyte. Ben, il va falloir les aider. Et donc, avec une petite aiguille, on va pouvoir introduire un spermatozoïde par un ovocyte, donc la technique de LICSI.
Au fil des ans, les biologistes développent de nombreuses techniques et les améliorent, explique Docteur Delaroche.
Donc dans les années 84, on a eu la première naissance après un embryon congelé en Australie. En France, c'était en 86, à Clamart également. C'est une technique en fait qui était géniale, mais qui entraîne en fait une certaine formation de cristaux de glace qui peuvent altérer les membranes des embryons. Donc du coup, on a eu une super évolution dans les années 2000 où la vitrification est apparue. Et là, en fait, on arrive à créer un état amorphe, vitreux, plus du tout de formation de cristaux glace, et on a un taux de survie des embryons, mais aussi des ovocytes, quasiment de 100%. Donc ça a vraiment révolutionné le transfert des embryons congelés.
Des évolutions techniques aux conséquences très concrètes.
En 15 ans, on a vu les techniques de culture prolongée, où là avant, on transférait des embryons à 2 à 3 jours après la ponction, donc avec 4 ou 8 cellules. On arrive maintenant à les cultiver jusqu'à J5, J6, voire même J7. Ça change qu'on est moins à l'aveugle qu'un transfert à J2, J3. On s'est vraiment assuré de l'évolutivité des embryons, alors qu'à J2, J3, ben, c'est vrai que quand ça ne marche pas, on ne sait pas si c'est parce que l'embryon s'est bloqué ou bien qu'il s'est développé, mais par contre, il n'a pas réussi à s'implanter.
Je crois aussi que toutes ces innovations, la vitrification, elle a permis aussi d'assurer une certaine sécurité pour nos patientes. Maintenant, ben, grâce à ces vitrifications de bonne qualité, on a confiance dans nos embryons et donc on peut dissocier la stimulation du replacement embryonnaire. Quand vous hyperstimulez, vous créez ce qu'on appelle le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Et ça, c'est dangereux. Et ces patientes-là, elles risquaient de faire des thromboses veineuses, des embolies pulmonaires, et c'était des causes d'hospitalisation. Et donc, vous imaginez une patiente chez qui on hésite, bah, soit on stimule un peu trop et on se retrouve avec un danger pour elle, soit pas assez et on gâchait un petit peu peut-être une bonne tentative. D'autre part, auparavant, quand vous ne pouviez pas sélectionner les embryons, vous mettiez souvent deux embryons à transférer. Et donc, on arrivait avec des grossesses multiples. Et donc, on arrivait avec des conséquences d'enfants plus prématurés, des grossesses gémellaires qui n'allaient pas forcément jusqu'au bout, des déceptions, des grossesses dangereuses presque. Heureusement, bah, cette vitrification ovocytaire a permis de sélectionner mieux l'embryon. Et in fine, on a des très bons résultats avec des embryons congelés et des beaux bébés.
Puis maintenant, ça s'est tellement accéléré qu'on arrive à la vitrification et des vitrifications ultra rapides. Depuis un an ou deux, on est dans l'ultra fast. C'est-à-dire qu'avant, ça nous prenait 10, 15 minutes pour congeler un embryon et le décongeler. Et maintenant, c'est une minute. Donc c'est incroyable, avec les mêmes taux de survie et probablement les mêmes taux de grossesse et d'accouchement. Les études commencent à arriver, mais c'est des données très très rassurantes. Donc on est encore de l'air, sur l'air encore plus speed.
La recherche en PMA est en perpétuelle évolution, notamment sur la question de l'embryon. Dans ce domaine, une question se pose. Les humains seront-ils toujours à la manœuvre dans le futur ?
Pour le moment, les techniques restent encore très manuelles, mais on voit arriver des innovations. La première, c'était il y a quelques années, c'était un automate qui permettait de vitrifier les embryons, mais ça faisait des grosses cassettes très encombrantes. Ça n'a pas montré de supériorité par rapport à l'humain, voire même peut-être une petite infériorité. Voilà, maintenant, après, on voit arriver de beaux automates qui permettent de faire des ICSI sans humain. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Il y a eu des naissances chez la souris. On a des robots qui permettent de préparer les boîtes de culture aussi, sans l'homme. Donc oui, ça arrive à grands pas.
La robotisation de certaines étapes de l'assistance médicale à la procréation ne relève ni de la science-fiction, ni du gadget.
Ça permet de standardiser les procédures, d'enlever peut-être aussi les risques humains de manipulation. Mais il faut que l'automate soit aussi performant que l'humain. Et pour l'instant, je vous dis, c'est pas encore gagné. Mais évidemment, ça va arriver. Et puis, il y a l'intelligence artificielle aussi qui nous aide, en tout cas, à décider du meilleur embryon à transférer sur des paramètres morphocinétiques et morphologiques. C'est très intéressant de pouvoir avoir un espèce de scoring. Bah, quand j'ai deux embryons qui se ressemblent beaucoup, qui ont la même morphologie, bah, finalement, j'en ai un qui a un score de 9, l'autre de 7. Bah, je vais plutôt privilégier ce score-là.
L'aide médicale procréation de demain sera à nouveau différente, comme elle l'a été aussi depuis maintenant bientôt 50 ans. Donc l'IA va faire partie de notre quotidien. Il va falloir travailler avec, se l'approprier et peut-être qu'on orientera peut-être plus facilement nos patients, en tout cas d'un point de vue clinique, et qu'après, ben, les biologistes auront peut-être aussi les meilleurs embryons.
Bon, on souhaite les meilleures chances possibles pour nos patients, ça c'est sûr.
Mais pas question, pour autant, de céder à l'innovation à tout prix, préviennent les docteurs Delaroche et Auger.
Ben, en fait, il faut à la fois s'adapter pour pouvoir suivre effectivement toutes ces évolutions et les proposer à nos patientes, mais en même temps, en ayant un léger recul pour pouvoir en fait d'abord s'assurer de leur innocuité et garantir les taux de grossesse et les taux d'accouchement qu'on connaît. Donc il ne faut pas non plus trop se précipiter. Il faut attendre en fait que ça soit bien sécurisé, je pense, pour ensuite les intégrer, mais pas trop en retard non plus, quoi. Il faut un juste milieu.
Et si vous regardez, il y a des innovations qu'on pensait prometteuses, mais qui finalement n'ont pas du tout donné suite. Donc l'innovation, elle est constamment à l'avance. Nous, on doit essayer de se renseigner, de lire. On partage aussi lors des staffs avec l'équipe de temps en temps ces données. Et c'est là que de temps en temps, y a une idée qui germe parmi quelques-uns d'entre nous, chez ma collègue souvent en tout cas, avec une proposition de sujet.
C'est vrai qu'on s'inspire beaucoup finalement des dossiers que l'on voit passer en routine, qui nous interpellent et on se dit, que dit la littérature sur tel sujet, tel problème. Et finalement, en recherchant dans la bibliographie, on s'aperçoit que peut-être le sujet n'a pas été beaucoup traité. Tiens, ça peut être une petite idée pour nous construire une étude in situ, voilà, à part les deux.
Auteur de l'étude Covisperm, qui a démontré que le virus du Covid ne se transmettait pas par le sperme, les deux médecins travaillent aujourd'hui sur un nouveau projet de recherche, le spermibiote. Objectif, évaluer l'impact des bactéries présentes dans le sperme et le liquide folliculaire sur le succès d'une FIV.
Parfois, c'est compliqué de monter une étude. Hein. Quand on a voulu justement monter l'étude sur la présence de Covid ou pas dans le sperme, le Covisperm, je sais qu'on a rencontré quelques blocages initialement. On voulait absolument être rapide parce que, en même temps, quand vous voulez vous intéresser à un sujet, comme tout le monde s'intéresse parfois au même sujet au même moment, et pendant le Covid, vous pouvez imaginer que c'est quand même beaucoup de gens qui voulaient savoir ce qu'il en était sur les conséquences en termes de fertilité et des risques de transmission. Hein. Et il faut monter une étude, il faut avoir l'accord, il faut avoir les budgets. Donc, tout est très réglementé. La direction recherche et enseignement de Ramsey nous a beaucoup aidé. On a été épaulés. Ils ont été assez efficaces rapidement sur la première étude. Puis après, il y a eu plusieurs études montées par le docteur Delaroche, ma collègue, et une autre qu'on monte actuellement ensemble sur le spermibiote. Et ils ont été réactifs. Pour le coup, on a accompagné pour préparer justement l'accord pour l'étude. Comment demander l'accord auprès des patients. Puis après, les registres pour pouvoir faire les statistiques, une aide à la publication.
À travers son histoire, la recherche en PMA a toujours visé à améliorer son efficacité, mais aussi la sécurité des patientes et de leurs bébés. Docteur Delaroche a par exemple démontré une certaine toxicité cumulée des consommables plastiques utilisés dans les procédures de routine des FIV.
Et ça veut dire qu'en fait les tests que font les industriels ne sont peut-être pas suffisamment sensibles et il faut une réglementation qui n'existe actuellement pas en Europe. Donc il y a des recommandations de la FDA aux États-Unis, mais en Europe il n'y a rien. Donc les industriels font ce qu'ils veulent, ils mettent les seuils qu'ils veulent, ils mettent la méthodologie qu'ils veulent. Donc, ils nous sortent un certificat de conformité. Très bien, ok, c'est conforme. Mais sur combien d'embryons ça a été fait, de souris dans quelles conditions? Il y a plein de paramètres qui peuvent influencer la sensibilité. Il y a surtout aussi l'association BAMP, l'association de patientes en fait, de PMA. Et elles avaient dit, oh là là, mais c'est super que vous publiez sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet, on avait demandé des études depuis 10 ans, et ça y est, enfin, vous tenez compte de nos remarques et de nos inquiétudes en tant que patientes, voir en fait ces plastiques utilisés dans nos tentatives de FIV. Quoi.
Il reste de nombreux champs de recherche autour de la PMA à développer, et notamment la question de la fertilité des hommes, selon le docteur Auger.
On s'aperçoit quand même que la fertilité baisse en France, qu'on a essayé d'en discuter beaucoup sur justement la vitrification sociétale chez les femmes, mais chez les hommes, il n'y a pas d'examen, on ne recherche pas chez les hommes jeunes s'ils ont un problème de fertilité. J'ai fait aussi de l'andrologie, ça m'intéressait très tôt, parce que je me suis dit c'est pas possible de faire la PMA sans connaître les hommes. Et en plus, on a pour le moment une recherche d'étiologie masculine qui est pauvre. Le spermogramme, ça ne permet que de décrire, d'observer des spermatozoïdes, alors que on sait que derrière, il y a plein de radicaux libres, il y a des problèmes de bactéries, une dysbiose qui peut aussi exister, et tout ça, ça a des conséquences beaucoup plus importantes qu'on peut le croire, et qu'il y a plein d'étiologies idiopathiques, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pour quelle raison ça ne marche pas, qui sont certainement dues parfois à la femme, mais aussi à chez l'homme, où on n'a pas trouvé d'explication.
Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique sur le site de Ramsey Santé.